spirituelle. Amy, Thomas et Laurent enquêtent tous les mercredis soirs en direct de 20h à 22h. Enquête spirituelle.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Enquête spirituelle. Bonsoir Rémi.
Bonsoir Laurent.
Et bonsoir Thomas.
Ça va Laurent?
Ça va très bien.
Ça va Rémi?
Oui, et toi?
Vous faites des gros bisous.
Merci.
Tu nous as manqué.
Oh, la semaine dernière, oui. Et oui, je peux pas tout le temps être là, toutes les semaines, vous le savez. Mais là, je suis très 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 heureux d'être parmi vous. Et donc ce soir, on aura une émission très intéressante. D'abord, on aura notre Marion National qui va nous parler de la suite, hein. Comment ?
Ton micro un peu plus haut.
Qu'est-ce qui se passe, Lorenzo ? Laurent, pardon. Ça y est, tu es démasqué. Tout le monde sait que je t'appelle Lorenzo maintenant. Et pour information, je m'appelle Tomato pour Laurent.
Sauce tomate.
Oui, exactement, oui. Ça suffit. Alors, ce soir, une émission très intéressante. Et il m'a coupé. Non.
Ouais. Hein ? Non, c'est non. Bon.
Ce soir, une émission très intéressante. On va parler de la psychologie des rêves, c'est ça.
Voilà,
avec quelqu'un qui sera avec nous par téléphone.
Bernard Mirande.
Bernard
Mirande.
D'accord, ok. Juste avant de faire les petits coucous comme d'habitude, on devrait avoir une pensée en même temps pour. Parce que la Belgique a vécu un drame, on va dire de cette façon-là. Et donc, une pensée pour toutes ces enfants, toutes ces petites âmes qui sont reparties, rejoindre la lumière plus vite que prévu. On pense aux familles en même temps qui sont dans la douleur et qui vivent une épreuve, parce que perdre un enfant, c'est une épreuve très très douloureuse, surtout à n'importe quel âge. Et donc on pense à tout le monde et on envoie énormément de lumière à toutes ces familles, et on envoie beaucoup de lumière surtout ces jeunes enfants qui sont repartis rejoindre la lumière très très vite. Voilà.
On leur envoie tout plein de bonnes choses.
Voilà. On fait un petit coucou, comme d'habitude, à nos auditrices et auditeurs. La Titouille, elle est
bien là.
Bonsoir la Titouille. Voilà, on dira pas son prénom, mais on lui fait des gros bisous. Un petit coucou du côté de Mont-Saint-Barreul, où on a Pauline, Céline et Thérèse qui nous écoutent. Un coucou du côté d'Orchy, où on a Nathalie et Rebecca qui nous écoutent. Du côté de Villeneuve-d'Ascq, on a Charlène. Du côté de Lille, on a Émilie. Du côté de Haubourdin, on a Peggy. Et j'en passe et j'en passe. On a également Laure qui nous écoute du côté de Dijon, qui m'a envoyé un petit message. Donc je lui fais un coucou également. Et toutes celles et ceux qui nous écoutent, il y en a qui sont du site OVS. On leur fait coucou et on fait des gros bisous à tout le monde. Voilà.
On fait une toute petite pause musicale et on retrouve Marion pour Coaching d'un héros dans quelques secondes.
Coaching d'un héros. Coaching d'un héros, la rubrique où le héros, c'est toi, présenté par Marion.
Retour dans Enquête spirituelle pour la première partie de cette émission avec Marion et Coaching d'un héros. Bonsoir Marion.
Bonsoir Laurent, comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
Super bien, écoute. Ravie d'être là.
Tant mieux. De quoi tu vas nous parler ce soir?
Ce soir, je vais vous parler de l'enfance du futur héros.
L'enfance du futur héros.
Ah, oui.
Eh bien.
Donc je me lance.
On t'écoute, c'est parti.
Bonsoir à tous, chers auditeurs. Bienvenue dans Coaching d'un héros 7, la rubrique qui t'aide à révéler tout ton potentiel de héros pour changer le monde. Ce soir, et donc pendant les 4 ou 5 prochaines émissions, on va parler de l'enfance du futur héros et de tout ce qui permet à un enfant de se construire une stabilité émotionnelle, bref, d'obtenir ses pleins pouvoirs de héros. C'est un sujet qui va tous vous intéresser, même si vous n'avez pas d'enfant, parce que ça vous permettra d'avoir un regard nouveau sur votre propre enfance et sur les rapports sociaux en général dans notre société actuelle. Alors, je vous ai parlé dans ma deuxième émission, je crois que c'était le 2 février, je vous invite à aller réécouter, je vous ai parlé du cerveau. Et je vous ai expliqué comment reprendre le contrôle de votre vie, comment transcender vos émotions négatives et puiser en vous pour être plus heureux, plus serein, dans le but de pouvoir répandre tout ça autour de vous. Mais avouez quand même que ça aurait été plus simple si vous aviez déjà tout ça en vous dès le départ. Donc il se trouve que justement notre capacité émotive, elle se construit dès le tout début de notre vie, là où on est tellement vierge et neutre, uniquement soumis à la survie, que toutes les choses qu'on va vivre, elles vont s'imprimer dans notre cerveau comme sur une page blanche. On va construire notre vision du monde et par conséquent ça va conditionner notre future interaction avec le monde. Le cerveau d'un enfant, il se développe en grande partie après sa naissance. Il se forme, il se façonne selon les émotions qu'il va ressentir, donc principalement selon les interactions parent-enfant. Le bébé, quand il naît, il naît en mode instinct. Il est en mode survie, il a tout son système de défense, tout le cerveau reptilien qui est lancé à plein régime et il ne peut pas exercer de contrôle dessus. Il est totalement dépendant des autres et lorsqu'il a besoin de quelque chose, il faut qu'un être extérieur soit là pour répondre à son besoin, pour que son système de survie il retrouve le calme et il restaure son bien-être intérieur. En naissant, le bébé il dispose d'énormément de neurones, il en a à peu près 200 milliards, mais par contre, il a un nombre très limité de connexions entre ses neurones. C'est ces connexions neuronales qui vont déterminer son intelligence émotionnelle. Donc, c'est-à-dire que c'est ces connexions qui vont déterminer sa capacité à être un super-héros. C'est ces connexions que le comportement des parents peuvent favoriser ou non. Alors, si on répond pas de façon adéquate aux besoins des bébés, les connexions neuronales, elles vont se faire en fonction de son système de base, qui est le système de survie, d'attaque, de défense, de fuite. Le cerveau, il a des chances de devenir hyperactif. En fait, en grandissant, ça va donner des personnes qui ont du mal à gérer leur stress, qui ont du mal à se calmer tout seuls, qui seront impulsifs, ils auront du mal à gérer leurs émotions parce que leurs connexions neuronales, elles auront été en fait cristallisées sur des réactions de défense. Si, au contraire, on répond aux besoins de l'enfant de façon adéquate, on utilise alors le cerveau mammalien qui, lui, il va réguler tout le système de survie reptilien. Du coup, les connexions, elles vont se faire avec ce cerveau mammalien qui va mieux se développer. Et une fois que tout sera mis en place dans le cerveau de l'enfant, il pourra ensuite, en grandissant, utiliser tout seul ses connexions. C'est logique. Donc il aura acquis une emprise sur le cerveau reptilien qui lui permettra de réguler son mécanisme de réponse au stress. En gros, il va pouvoir mettre en place des connexions de calme, de confiance, d'assurance, de patience, bien-être, sérénité, d'héros, quoi. Il y a 90% du cerveau qui se forme les 5 premières années. Il y a des millions de connexions qui se font, qui se défont, qui se refont selon les expériences de l'enfant et de ses relations affectives avec ses parents. Vers l'âge de 7 ans à peu près, cette activité elle se ralentit. Les connexions elles se cristallisent sur ce qu'ils ont acquis et ça permet une meilleure communication entre les neurones. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent dans beaucoup de cultures que tout se joue avant l'âge de 6 ans. Et alors, c'est bien beau tout ça, mais quels sont ses besoins? Comment cibler pour mettre toutes les chances de son côté? Généralement, le bébé il nous communique spontanément ses besoins grâce à ses pleurs, ses réactions. Mais à notre époque, dans notre monde occidental, on est très très conditionné par la société qui a développé énormément d'idées erronées autour de l'enfance suite à des siècles de pression religieuse, entre autres, suite à notre époque, à des lobbies commerciaux, etc. etc. Du coup, on arrive mal à décoder les besoins des bébés. Ou plutôt, en fait, c'est plutôt notre façon d'y répondre qui est incorrecte. Au lieu d'écouter le bébé, on écoute des psychologues, des manuels, des machins qui ont des théories bien différentes et bien loin de l'essentiel. Il faut pouvoir sortir de tous ces schémas classiques. Il faut les repenser en revenant à la base. Il faut envisager nos réactions vis-à-vis d'un bébé en fonction des réflexes de survie avec lesquels il naît et chercher la façon la plus naturelle, la plus logique et la plus humaine d'y répondre. Même si elle ne correspond pas à ce que la société elle attend de nous, pour qu'on rentre en fait dans un moule un peu petit, pratique, facilement manipulable, c'est pas évident de sortir de la norme. Donc ce sont ces réflexes qui vont pousser le bébé à survivre, à se développer physiologiquement et émotionnellement de façon optimale. Donc c'est de tous ces réflexes dont je vais vous parler dans les 4 prochaines émissions. Je vous parlerai d'allaitement, de portage, de cododo, d'éducation non violente. Et en attendant, on peut parler un peu du parent héros. Ce qui est intéressant en tant que parent héros, c'est que l'enfant, il a ce don de nous confronter à nos limites, mieux que personne. Ses émotions, elles sont brutes, elles sont dans l'excès, parce que lui, son cerveau, il ne sait pas encore les gérer. Donc forcément, ces émotions et ces réactions vont tirer sur nos cordes sensibles à nous. Nos cordes d'impatience, de colère, sur nos angoisses acquises souvent dans notre propre enfance. Généralement, on reproduit ce à quoi on a été confronté dans son enfance. Donc il ne s'agit pas, bien sûr, d'accuser les parents. Aussi, ils ont été victimes de leur propre époque, de leurs parents, etc. Et puis, il y a d'autres choses qui entrent en jeu. Après, on a notre vie, notre vécu, tout ça. Donc, puis bien sûr, comme on l'a vu dans les émissions sur le cerveau, heureusement, on peut transcender son enfance. Mais ça demande un sacré boulot sur soi-même. Et puis, faut penser à le faire, faut avoir envie de le faire, faut garder la motivation. Donc, autant éviter ça à nos enfants et leur mettre toutes les cartes, les bonnes cartes en main, les cartes du héros. De leur côté, ils vont nous donner la possibilité de constater nos limites et d'apprendre à les dépasser. Et bien sûr, le faire pour eux, pour augmenter leur bien-être, bah, ça nous donne une énorme motivation, c'est génial. Finalement, ils sont à la fois nos guides et guidés par nous. C'est un travail à double sens qui est plutôt sympathique et merveilleusement enrichissant. Donc, éduquer un enfant à la paix, c'est prendre le mal de la société à la racine. C'est propulser l'humanité entière vers plus de paix. Et rien que pour ça, il faudrait déjà repenser toute la société. Mais c'est ce qu'on verra au fur et à mesure de mes prochaines interventions. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous laisse en plein suspense et je vous remercie de m'avoir suivi.
Eh, on t'en prie, Marion, c'était super.
Merci. De rien. C'est un plaisir.
On a hâte d'avoir la suite de Coaching d'un héros. Et sur ton site internet, on suppose qu'on aura la petite vidéo.
Exactement, t'as tout compris.
Voilà, donc c'est www.change-le-monde.com. Vous pourrez voir Marion en chair et en os.
Oui, tout à fait. Merci Laurent.
On marque une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec notre invité de ce soir, je vous le rappelle, et Bernard Mirande qui va nous parler des rêves. Alors, tiens, tu rêves Marion ?
Oui, beaucoup, toutes les nuits.
Ah, bah t'auras peut-être des questions aussi à poser.
Je m'en souviens
invité.
Tout le temps. Ah, sûrement.
Ah, mais voilà. On se retrouve dans quelques
je vais
petits
aller
instants.
Sur le
chat. À tout de suite.
Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Découvrez tous les sujets pour ouvrir votre spiritualité. Faites-vous votre propre avis. Nous laissons la parole à nos invités.
Notre invité sera avec nous ce soir dans quelques petites secondes pour cette émission Enquête spirituelle, toujours avec Thomas qui est toujours là-bas.
Mais je suis là-bas et voilà. De temps en temps je bouge et je vois ce qui se passe sur le chat et je vois qu'il y a du monde et ça fait plaisir.
Voilà, vous êtes très nombreux.
Et j'ai même vu que quelqu'un disait que je m'ennuyais, c'est faux, la personne qui a dit ça a dû très très mal voir par le webcam, mais ce n'est pas grave, je ne lui en veux pas. Je sais que ça va encore faire jaser, il va encore avoir des messages, mais ce n'est pas grave. Voilà. Alors nous avons notre invité qui est au téléphone.
Qui est au téléphone.
Donc Laurent, comment vas-tu faire pour que nous puissions l'entendre
dans quelques secondes, parce qu'il y a juste Amy qui est hors antenne avec notre invité. Voilà.
Hop.
Voilà, normalement on a notre invité au téléphone.
On a pas un de nos invités qui nous écoute là ce soir que j'ai vu tout à l'heure.
Olivier Carré.
Monsieur Carré nous écoute.
Oui.
Monsieur Carré nous écoute de fin fond d'où il se trouve. Bonsoir, cher Olivier Carré, si tu nous entends.
Voilà. Voilà. Et maintenant, on écoute notre invité, Monsieur Mirande. Bonsoir.
Oui. Ah. Alors, en attendant, eh bien, Amy, c'était ta journée aujourd'hui.
On parle du sujet quand même.
Les rêves, est-ce que je fais des rêves? Généralement, jamais. Je n'ai aucun souvenir de mes rêves quand je me réveille, mais il y a quelques jours, j'en ai fait un magnifique.
D'accord.
Voilà, une révélation sur un monde qui existe dans l'univers et trop long expliqué. Il y a notre invité qui est là et peut-être qu'un jour si j'aurai l'occasion d'expliquer, mais très très rarement je fais des rêves. Oui.
D'accord.
C'est le noir total quand je dors comme un bébé, je prends d'abord mon biberon avant et puis après hop, terminé. Et puis si je me réveille la nuit, une bonne camomille hein, avec mon petit bonnet à plumes sur la tête, et ou toi t'as une cascade de cheveux donc tout va bien.
Oui, voilà.
Mais oui, je fais rarement de rêves. Et toi?
Moi tous les jours.
Ah oui?
Enfin toutes les nuits, oui.
Toutes les rêves.
Et c'est...
Même si je fais une sieste en voiture, je vais rêver. Oui, je rêve tout le temps.
Et c'est prémonitoire, c'est des choses qui arrivent?
Souvent, oui.
Ah bon?
Soit ça reflète la réalité.
Oui.
Donc ça me confirme des choses, j'ai des réponses.
Oui.
Ou je peux faire des rêves prémonitoires, mais en général, ça se passe un an après.
Je crois qu'on peut aussi faire des rêves éveillés.
Mm-hmm.
Bien sûr.
Notre invité peut-être là. Bonsoir, monsieur Mirande.
Il n'entend pas. Il nous entend peut-être.
Il nous entend peut-être. Peut-être un...
On va la voir. Faut pas. Voilà. Donc,
Oui. Voilà, on va parler des rêves dans un petit instant. Ah ben c'est la ligne qui a coupé en fait, tout simplement.
Ah, voilà.
C'est malin.
C'est la ligne qui a coupé. Bon, voilà, j'espère qu'on va le récupérer dans quelques petites secondes.
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait? Je te mets une petite
pause. Et toi, Laurent, tu fais des rêves?
Ah, ben bien sûr que je fais des rêves. Pas toutes les nuits, mais oui, je fais des rêves, bien sûr. Qui n'en fait pas?
Ben, personnellement, si, mais c'est le noir total. Moi, quand je dors, je dors. Hein. Je peux même avoir un coup de trompette, je vais même pas me réveiller. ou un bruit suspect, mais. Ah, le téléphone sonne. Notre intervenant nous appelle quand même de loin, hein, je précise.
Oui, tout à fait.
C'est la planète quoi? Il est de Jupiter ou de Vénus, lui?
D'ailleurs, en parlant de Jupiter et de Vénus, c'est des planètes qu'on voit dans le ciel actuellement.
Ah,
voilà. J'ai vu avec Martin Klein dimanche qui a confirmé. On voit deux grosses étoiles et c'est Vénus et Jupiter.
C'est génial, ça. C'est
un alignement en ce moment. Voilà, tout simplement.
On peut y aller?
Voilà, on va essayer de récupérer.
Hop, allô, allô?
Voilà, Monsieur Mirande. On va mettre une petite pause.
Mets une petite pause et on revient avec Monsieur Mirande juste après.
Découvrez tous les sujets pour ouvrir votre spiritualité. Faites-vous votre propre avis. Nous laissons la parole à nos invités.
Rebonsoir dans cette émission Enquête spirituelle avec Amy, Thomas et Laurent. Et notre invité de ce soir, Monsieur Bernard Mirande. Bonsoir.
Bonsoir.
Alléluia, voilà. Nous entendons. Et personne ne nous a quittés, les auditrices et auditeurs sont toujours là.
Voilà, ils sont toujours là.
Oui, bon, allez, on y va, Monsieur Mirande, bonsoir.
Toutes nos excuses.
Bonsoir.
Heureux de vous entendre, c'est Thomas qui vous parle. Et donc, ce soir, vous allez nous parler de la psychologie des rêves, c'est ça?
Oui.
Eh bien, écoutez, nous vous écoutons.
Voilà, déjà, comment en êtes-vous arrivé à découvrir le monde des rêves? Quel est un peu votre parcours?
Ben déjà bonsoir à tous les auditeurs de la radio Max FM. J'espère qu'ils vont apprendre tout ce qui est important sur le rêve. Ben moi je suis arrivé au rêve par les miens propres, hein, c'est-à-dire que j'ai eu des rêves qui m'expliquaient ce qu'il y avait dans mon livre que j'étudiais pour ma maîtrise de lettres. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à noter les rêves, étant donné que mes rêves m'ont indiqué des choses qui étaient dans le livre.
Ah, ok. Okay,
voilà, okay. Alors j'ai commencé à noter mes rêves tous les jours, et puis ensuite je me suis lancé dans la recherche des rêves, de l'étude des symboles.
Ok, c'était arrivé à quel âge, plus ou moins? C'était jeune ou c'était récemment?
Ah, ça m'est arrivé il y a pas mal de temps, c'était en mars 77.
Ah oui, donc vous avez quand même de l'expérience, on va dire, par rapport à tout ça, alors.
Ah, oui, je suis analyste de rêve à Montpellier depuis plus de 30 ans, depuis 1980.
Ah oui, donc c'est vraiment quelque chose de particulier, les rêves, parce que comme on le disait tout à l'heure, je sais pas si vous avez eu l'occasion de nous écouter au début de l'émission, parce qu'il y a certaines personnes qui rêvent et il y en a d'autres qui ne rêvent pas. Alors pourquoi?
En réalité, tout le monde rêve. Ce qu'il y a, c'est que tout le monde n'a pas le souvenir de ses rêves.
Oui,
si ce n'est quelques personnes, des parkinsoniens ou des personnes qui ont un problème épileptique, sinon tout le monde rêve. Voilà, la difficulté, c'est pour s'en souvenir.
Voilà, c'est ça le truc. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Moi, personnellement, je n'ai aucun souvenir quand je me réveille le matin. C'est comme si c'était écran noir.
Oui.
Et pourtant, je suis sûr que je rêve.
D'accord. Alors, c'est un souvenir des rêves, d'utiliser des techniques de mémorisation. En tout cas, le plus important, c'est au réveil d'avoir la volonté de noter ses rêves.
Oui.
C'est-à-dire que si on se réveille la nuit avec le souvenir d'un rêve, il faut avoir sa lampe de poche et son papier, son stylo pour noter le rêve tout de suite.
Oui, tout à fait.
Oui, exactement.
Si on note ses rêves, si on note chaque bribe de rêve ou chaque morceau de rêve, la mémoire se développe.
Ah oui. Et est-ce qu'on peut aussi, dans son rêve, je suppose, inciter à s'en souvenir avant le réveil? Est-ce que c'est possible?
Alors, si le soir, avant de s'endormir, on demande à notre inconscient profond de nous aider pour avoir la mémoire d'un rêve, ou pour ceux qui ont une croyance spirituelle, ils peuvent demander à leur maître ou à leur ange d'avoir le souvenir d'un rêve. Et à ce moment-là, ils auront plus de chances d'avoir la mémoire d'un rêve au matin. pour les récalcitrants, il existe une méthode de yoga, de respiration et de visualisation qui se trouve sur mon site, donc sur mon site d'interprétation des rêves. Et là, ils ont toute la technique expliquée en détail à travailler tous les matins pour faire remonter le rêve.
Ok, ok. Et dans les rêves justement qu'on peut faire, il y a des rêves qu'on fait couramment qui ont des significations. Par exemple, moi, je le fais plus maintenant, mais un rêve que je faisais souvent avant, c'est où, que les gens font, ça va parler à beaucoup de monde, c'est le rêve de se faire poursuivre par quelqu'un et qu'on ne puisse pas avancer, qu'on est bloqué, on est comme ralenti, on n'arrive pas à avancer. Qu'est-ce que ça pourrait signifier ?
Alors en réalité, il y a plusieurs explications possibles, tout dépend de chacun. Ou est-ce qu'en réalité on a envie d'être rejoint, puisqu'on n'arrive pas à avancer et que quelqu'un nous poursuit ? Mm-hmm. Ou est-ce que notre peur est mitigée, c'est-à-dire il y a une part de nous qui a réellement peur, et puis l'autre tendance intérieure nous freine. Alors, si on n'avance pas, on va finir par être rejoint. Et si on est rejoint, il va y avoir rencontre. Alors, cette rencontre qui nous fait peur, ça peut être une rencontre agréable, ça peut être une rencontre désagréable. C'est plus souvent une rencontre désagréable, mais ça peut être une rencontre agréable.
Ouais.
Puisque tout le travail sur les rêves, c'est un travail, comme l'a montré Jung, d'unification des contraires. Donc, c'est un travail d'unification intérieure. Et l'autre qui nous poursuit, c'est nous-mêmes, puisque tout ce qui apparaît dans un rêve est une image de nous-mêmes. Donc la personne qui nous poursuit, c'est nous. C'est le sujet lui-même.
Ouais.
Alors on peut être poursuivi par son ombre, on peut être poursuivi par sa lumière, ça dépend des rêves. Ou ça peut être un entre-deux.
Ouais, ok, ok. Parce qu'on dit toujours justement quand on se fait poursuivre, qu'à partir du moment où on arrive à se retourner contre notre poursuivant, en général ça s'arrête.
Moi je l'ai testé, ça a fonctionné.
Oui, dans certains cas, à partir du moment où on ose affronter celui qui nous poursuit, eh bien, les choses peuvent se calmer, mais ce n'est pas obligatoire.
Mmh. Ok, ok. Moi, ce qui m'intéressera à savoir, si je puis me permettre de vous demander, c'est la nature du rêve. C'est-à-dire, bon, on s'endort la nuit, qu'est-ce qui fait qu'on rêve ? C'est notre cerveau qui travaille ? C'est notre esprit qui va se balader dans l'au-delà ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, en fait, j'aimerais bien comprendre, en fait, le processus.
Oui. Alors actuellement, l'approche scientifique n'est pas suffisante.
Oui.
C'est-à-dire que l'approche scientifique actuelle va indiquer, bien entendu, que le rêve est composé de différents... Enfin, il y a différents cycles du sommeil. Parmi ces différents cycles du sommeil, il y a le rêve pendant la phase de sommeil paradoxale, mais il y a des rêves aussi pendant les autres phases, mais qui sont difficiles à mémoriser.
Non.
En principe, selon les scientifiques modernes, on rêverait tout le temps. Il n'y aurait pas d'interruption.
Ah oui. Okay.
Notre cerveau ne s'arrête jamais de fonctionner, mais il se souvient surtout des rêves qui se situent pendant la phase de sommeil paradoxal. Qui nous envoie ces rêves, on peut se dire, c'est nous-mêmes. De toute façon, tous les psychanalystes seront en accord si on dit que c'est le rêveur lui-même qui s'envoie ses propres rêves. Mais si on étudie plutôt l'interprétation des différentes religions du monde entier, là, il va être dit que le rêve nous est envoyé par quelqu'un. Ça peut être un mort bienveillant, ça peut être un sage, ça peut être un maître, ça peut être notre fée. Mais en tout cas, même si dans le rêve, on se dit le rêve nous est envoyé par quelqu'un d'autre, c'est quand même toujours nous-mêmes qui nous l'envoyons quelque part, parce que nous avons notre filtre personnel.
D'accord.
Donc il y a au moins deux interprétations d'un rêve. Un ange apparaît dans notre rêve,
oui.
Il s'agit de l'ange, bien sûr, mais cet ange, c'est notre partie angélique qui communique avec nous-mêmes.
Oui, projection,
donc, il y a deux interprétations. On ne peut pas interpréter le rêve d'une seule et unique façon.
D'accord, ok.
Le rêve est beaucoup plus riche que cela. Alors pourquoi nous envoyons-nous ces messages ? On peut s'en rendre compte que si on note les rêves tous les jours, parce que si on note les rêves tous les jours, on va voir qu'il y a un crescendo, il y a une progression intelligente, d'une extrême rigueur, d'une évolution progressive remarquable, qui nous indique notre évolution dans tous les domaines, pas à pas, jusqu'à la mort. Voilà, toute la vie. Donc tous les rêves sont faits pour notre évolution dans tous les aspects de notre existence. Alors ça n'est pas assez connu. Freud n'a pas dit ça, il n'a pas trouvé ça à son époque. C'est Jung qui a commencé à en parler en étudiant le processus d'individuation. Mais si, il n'y a pas d'étude qui est faite réellement sur le rêve, malheureusement, au niveau de nos universités. Il faudrait pour cela qu'il y ait un travail d'interprétation, et pour le moment, l'interprétation est interdite. Parce que si nous mettions une interprétation des rêves, on découvrait des choses que beaucoup refusent encore. Hein, tout le monde rationaliste a une peur, et son dogme, c'est qu'on n'enseigne pas l'interprétation des rêves. Alors si on n'enseigne pas l'interprétation des rêves, on ne saura jamais ce que ça veut dire. Voilà. Alors ça, c'est le grand problème de notre société, paraît-il, si évoluée, qui n'étudie pas le rêve au niveau des plus hautes instances.
Ah oui. Ok.
D'accord.
C'est plus compliqué qu'on ne le pense.
Ah bah ça, oui. Hein.
Le rêve est la science des sciences. Étant donné que si on étudie les rêves, on est obligé de tout étudier. C'est-à-dire qu'on peut parler de n'importe quel sujet dans les rêves. Oui. Donc pour l'interpréter, il faut connaître le sujet. Par conséquent, il faut poser des questions à celui qui nous raconte le rêve, qui a fait le rêve, pour comprendre son rêve en fonction de ce qu'il a vécu, de ce qu'il fait. Donc ça ouvre à tout, à tous les domaines possibles. Et l'interprétation du rêve, j'y travaille depuis 30 ans, j'ai voulu absolument trouver les interprétations qui n'avaient pas été explicitées par Freud ou par Jung, par ceux qui n'ont pas cherché suffisamment, et pour que Jung soit reconnu, j'ai essayé de chercher une explication technique, et je me suis rendu compte en fait qu'on pouvait interpréter une série de rêves de la même personne avec plus de 20 approches différentes. Alors ces approches sont par exemple l'étude de la psychologie de l'enfance, l'étude du couple intérieur, de la sexualité, la psychopathologie du sujet, la psychosomatique s'il a un problème de santé, la relation transférentielle avec son analyste ou son psychanalyste ou son psychologue ou son psychothérapeute, l'approche des mouvements, le suivi des mouvements dans les rêves, la circulation dans les rêves. Ensuite, toutes les approches métaphysiques, c'est-à-dire le lien du rêve avec la philosophie chinoise, avec la philosophie de l'Inde, avec les différentes mythologies, avec l'astrologie. Donc il y a plus d'une vingtaine d'interprétations d'une série de rêves. Et si nous faisons la synthèse d'interprétation, on arrive à une précision. Alors je m'évertue en ce moment à écrire tous les livres concernant ces sujets-là. Seulement, comme c'est des sujets un peu ardus, eh bien les éditeurs, les grands éditeurs qui veulent plutôt vendre beaucoup de livres pensent qu'avec ce type de recherche, ils en vendront moins. Et par conséquent, ces livres-là ne sont pas publiés chez les grands éditeurs.
C'est malheureux.
Donc ce qui fait qu'il y a peu d'exemplaires en librairie sur ces choses. Là et la diffusion passe mal. Le rêve est dérangeant parce que le rêve dit tout sur tout et il parle surtout au départ de notre ombre, c'est-à-dire de nos difficultés dans la vie, de nos tourments, de nos épreuves. Et beaucoup s'arrêtent et n'osent pas affronter le rêve. Alors comment enseigner les rêves si on ne sait pas affronter à ses propres rêves? Voilà, il y a un premier interdit à ce niveau-là, la peur. Hein. Le deuxième interdit, c'est que pour interpréter les rêves, on dit il n'y a que le sujet qui peut les interpréter, il n'y a que lui qui connaît sa vie, d'accord? Il n'y a que lui qui connaît sa vie. Mais l'analyse de rêve connaît les clés psychologiques et métaphysiques et mythologiques et symboliques qui vont lui permettre d'interpréter ce que le rêveur ne peut pas faire. Donc il faut quand même que l'interprète de rêve donne tous ses renseignements au sujet pour qu'il en fasse un adulte qui soit capable d'interpréter lui-même ses rêves. Troisième interdit, les religions. Qui font du rêve souvent un aspect merveilleux ou fantastique sans le rattacher aux différents éléments du psychisme humain.
Okay.
Et ça, pourtant, je suis très attaché à l'approche métaphysique des rêves. Mais, en principe, l'approche est plus religieuse que métaphysique. C'est-à-dire, on essaie de relier le rêve à ses idées religieuses plutôt qu'à une métaphysique universelle.
Tout à fait, je comprends.
Oui. Ok. Monsieur Mirand, on marque une toute petite pause musicale de 3 petites minutes et on se retrouve juste après avec vous pour la suite de la signification des rêves. À tout de suite.
Entendu.
Enquête spirituelle. Amy, Thomas et Laurent enquêtent tous les mercredis soirs en direct de 20h à 22h. Enquête spirituelle.
Nous retour dans cette émission Enquête spirituelle de ce soir avec notre invité, monsieur Bernard Mirande. Et au fait, tiens, vous nous appelez d'où ?
Je vous appelle de la banlieue de Montpellier, de Castelnaudès, dans l'Hérault.
Il pleut là-bas en ce moment, non ?
Pardon ?
Il pleut chez vous, non ?
Aujourd'hui, oui. Il pleuvotait.
Ah, voilà.
Nous avons le soleil dans le nord. Allez, on poursuit avec les rêves et M. Mirande hein, qui nous donne son interprétation de la psychologie des rêves. C'est très intéressant. Tu
disais justement, hors antenne, on aura une question juste après, que le rêve, en gros, ça vient toujours de nous-mêmes. C'est ça que,
voilà.
C'est ça qui sort là-dessus qu'il faudrait insister. C'est ça que vous vouliez dire.
Oui, que le. Oui, tout ce qui apparaît dans le rêve est une image de soi, plutôt.
C'est une image de soi. Et c'est dû à quoi, tout simplement ? Est-ce que c'est des
pour nous faire comprendre ?
Voilà, on a des choses à comprendre dans nous-mêmes ou...
Disons que c'est notre intelligence intérieure. Les spiritualistes diront que c'est notre âme qui nous envoie un message tous les jours pour nous faire prendre conscience de tout et pour étudier notre chemin d'évolution, puisque nous écrivons avec les rêves notre histoire page à page. Et on peut en transformer la suite en utilisant ce travail justement de transfert avec un psychologue, un analyste. Alors si on le fait tout seul, ça avance, mais ça avance beaucoup moins vite.
Ok. Alors, on a une question de plusieurs auditeurs sur le chat, Amy.
On avait une question sur les couleurs dans le rêve. Est-ce qu'il y a des significations sur les couleurs ?
Oui, alors là, ce sont les significations qui sont données dans les différents dictionnaires symboliques. Si on se réfère au dictionnaire symbolique, on a pas mal d'explications, mais je peux, en parlant de quelques couleurs, donner des interprétations plus précises, parce qu'en définitif, c'est beaucoup plus complexe. Par exemple, si apparaît la couleur blanche dans le rêve, on pourrait dire que des fois, en début de cycle ou en début d'analyse de rêve, la couleur blanche va signifier ce qui est encore masqué, c'est comme la feuille blanche, et c'est ce qu'on ne connaît pas, ce qui n'est pas encore défloré, ce qu'il faut donc traverser pour aller plus loin. Et puis il y a la couleur blanche qui va coder le nettoyage, c'est-à-dire la purification, le blanchissage. C'est-à-dire nos parties sombres, on va essayer de les rendre plus lumineuses. Et puis il y a le blanc lumineux, le blanc merveilleux de la perfection. Donc vous voyez, il y a déjà trois explications pour la couleur blanche. Donc si quelqu'un dit j'ai rêvé de blanc, on ne saura pas choisir l'une des trois interprétations si on n'a pas d'autres aspects de rêve ou si on ne connaît pas la vie du sujet.
Il n'y a pas des couleurs qui sont plus positives que d'autres, par exemple ?
Alors, il est évident que toutes les couleurs peuvent être positives. Le noir, par exemple, va représenter l'immensité. C'est dans le noir qu'on va pouvoir découvrir l'infini des étoiles. Alors que quand on a un ciel bleu, on dit c'est beau, on est joyeux, on est optimiste, enthousiaste, mais on est limité par ce voile. C'est pour ça que quelquefois le bleu code le voile, comme le voile de la Vierge qui est bleu. Alors que le noir fait découvrir l'infini du monde, donc il ouvre à tous les mystères, il ouvre toutes les portes. Et bien sûr, certaines fois, le noir va représenter notre imperfection, notre ombre, ce qui est encore sale en nous, que nous devons nettoyer. C'est l'œuvre noire. L'œuvre noire peut être aussi toute l'introspection, l'étude de soi-même.
Ok.
D'accord. Et en ce qui concerne les rêves...
Alors, ce qui est positif, c'est bien sûr quand les couleurs sont lumineuses. Par exemple, comme le noir, c'est quand il y a des petites étoiles dedans que ça devient merveilleux. Et bien, pour toutes les autres couleurs, c'est pareil. S'il y a un rouge, un vert, un bleu, un jaune lumineux, c'est positif.
Ok. Alors, Amy, il y avait une question à vous poser.
Seulement, des fois, on peut créer dans son rêve une couleur merveilleuse pour se cacher le problème. Et là, ça peut être embêtant pour l'individu s'il n'arrive pas à résoudre ses difficultés du quotidien parce qu'il va essayer de s'échapper à la connaissance de lui-même. Alors, il peut s'inventer un rêve merveilleux pour fuir aussi. Hein. Donc, il y a toujours du yin dans le yang, du yang dans le yin, du yin dans le yang et du yang dans le yin. Voilà, c'est un petit peu complexe, mais il faut toujours manier le paradoxe. C'est comme une dissertation, il y a un sujet, et c'est sûr qu'il faut faire la thèse, l'antithèse et la synthèse de son rêve.
Ok. Alors, Amy, une question que tu voulais poser.
Si Amy n'arrive pas à poser sa question, moi j'en ai une et je vais lui couper le bec.
Vas-y.
Alors, monsieur Mirande, petite question. Il y y a des personnes qui viennent souvent me voir en privé, qui me disent, voilà, mon papa décédé, mon grand-père décédé est venu dans mon rêve me parler. Comment vous, vous voyez ça? C'est une rencontre, il y a bien eu l'âme du défunt qui est venu communiquer à la personne, ou il y a une autre interprétation également qu'on peut avoir?
Oui. Alors, personnellement, ayant travaillé beaucoup sur la mystique du rêve, par mon expérience depuis une trentaine d'années, je crois bien sûr tout à fait à cette approche-là. C'est d'accord. Même ce qui prime pour moi. Mais en tant que psychologue dans mon métier, oui. Je n'ai pas toujours en face à moi quelqu'un qui a ses croyances.
Bien sûr.
Donc, je m'adapte à la personne. Et pour c'est mon rôle de psychologue. Mais voilà ce que je pense. Alors, quand le mort apparaît dans le rêve pour venir nous voir, c'est certainement que c'est notre fonction paternelle. Toujours. Hein, c'est une fonction paternelle avec qui nous communiquons pour aller plus loin. Parce qu'on n'a jamais fini d'unifier le rapport à cette puissance paternelle pour être de plus en plus son propre père. Et pour, dans la vie, avoir une action de plus en plus positive en tant que père vis-à-vis des plus jeunes ou vis-à-vis d'employés ou d'enfants. Ou... Voilà. Donc, nous devons sans cesse développer cette fonction paternelle que seul un maître réalisé pour avoir de complète. Par contre, quand un mort apparaît dans le rêve, moi, je pense absolument que c'est l'âme du mort qui est venue se manifester au rêveur. Alors là, on peut faire tout un travail. Donc, c'est un sujet dont je parle depuis des années, dans mes cours, dans mes conférences ou dans mes ateliers. Et j'aide, bien sûr, dans le privé, des gens à travailler sur cette dimension pour qu'ils aient une meilleure communication, une plus grande communication, une progression dans cette communication avec le mort disparu bienveillant. Hein? Alors c'est très important parce que le rêveur, il a tendance dans un premier temps à travailler sur le deuil, c'est-à-dire que s'il rêve du mort, c'est pour combler bien sûr partiellement son manque, et c'est normal, c'est la vie qui le veut. Heureusement que nous aimons les gens qui étaient proches de nous et qui ont disparu, alors on a envie qu'ils soient là et on rêve d'eux. Mais on doit faire le deuil. Mais ensuite, il s'agit d'aller rencontrer le mort. Et en principe, c'est plutôt le mort qui vient dans les rêves. Oui. On le voit plutôt dans des lieux familiers, on le voit sur Terre. C'est plus rare que ce soit le rêveur qui monte, lui, dans le ciel, parce que c'est une expérience encore plus difficile. Ça demande des capacités plus hautes pour aller rencontrer le mort dans l'au-delà. Alors, rencontrer le mort dans l'au-delà, ça, c'est exceptionnel. C'est déjà d'un niveau extrêmement haut. Et bien sûr, on va apprendre à ce moment-là quel est l'au-delà. C'est capital d'aller voir l'au-delà. C'est incontournable. Parce que si la société veut évoluer, il faut supprimer l'égoïsme. Pour supprimer l'égoïsme, il faut savoir que nous avons une autre vie, que la vie continue. Sinon, on a tendance à vouloir être heureux ici et maintenant sans se préoccuper des autres. Donc, il est important que, à notre époque, on se mette à la spiritualité, mais une spiritualité de rigueur. C'est-à-dire, dans son sens, c'est-à-dire qu'on doit tendre vers une connaissance de nous-mêmes par l'expérience. Et le vrai scientifique, d'ailleurs, c'est celui qui expérimente. Alors, il faut expérimenter les rêves pour savoir que les rêves peuvent tout nous dire et nous montrer tous les chemins, parce que c'est par le rêve qu'on arrive à découvrir la communication avec les morts, c'est par le rêve que l'on arrive à découvrir l'au-delà, c'est par le rêve qu'on fait des voyages astraux et qu'on découvre son immortalité petit à petit.
Oui. Alors, Amy, ta question.
Oui, j'avais une question concernant les rêves prémonitoires. Donc, on parle des rêves, on dit que c'est une partie de nous-mêmes donc qui nous est dévoilée pendant les rêves. Mais la partie prémonitoire, comment ça se produit?
Alors, oui, ça, c'est quelque chose qui est rarement connu. J'ai jamais vu ça dans un livre, mais je l'ai découvert dans les rêves de mes clients. Le rêve de prémonitoire s'inscrit toujours entre deux rêves, entre le rêve qui précède et le rêve qui suit. Et si on étudie la trop la progression de ces trois rêves, on verra que le rêve central, le rêve prémonitoire, a un sens lié à notre réalité, qui n'est pas simplement un rêve prémonitoire. C'est-à-dire qu'un rêve prémonitoire a toujours au moins deux significations, le fait qu'il soit un rêve prémonitoire et le fait qu'il s'inscrive dans une suite de rêves qui nous explique des choses sur nous-mêmes.
D'accord.
Voilà. Alors, par exemple, je donne un exemple de rêve. C'est une personne qui est poursuivie dans la forêt avec son mari par des personnes qui ont des arcs, des javelots, et ben, ils lancent des flèches, etc. Alors, il fuit devant les poursuivants. Deuxième rêve, la rêveuse voit venir chez elle une amie avec une nouvelle coiffure. Troisième rêve, le rêveur et la rêveuse, la rêveuse et son mari sont dans une forêt, dans une forêt autour d'un feu de camp, et c'est la fête. Voilà. Alors si on étudie ces trois rêves, il faut savoir que le rêve central est prémonitoire. C'est-à-dire que la rêveuse qui voit venir dans le rêve son amie avec la nouvelle coiffure, c'est ce qui s'est passé dans la journée. Elle savait que cette amie devait la voir, mais ce qu'elle savait pas, c'est que son amie allait arriver avec la coiffure qu'elle avait vue le jour précédent en rêve. Voilà, donc le rêve central est prémonitoire. Mais si on étudie les trois rêves, on se rend compte que dans le premier, il y a la poursuite dans la forêt par les indigènes. Deuxième rêve, le fait de voir une nouvelle coiffure, c'est-à-dire que la personne a remis ses idées en place, a remis de l'ordre dans sa psyché, puisque les cheveux représentent ce qui sort du crâne, les idées, les pensées. Et donc dans le troisième rêve, la personne se retrouve en forêt, mais ce coup-ci avec son mari autour d'un feu de camp, et c'est la fête. Donc la guerre a été remplacée par la paix. Parce qu'au centre, il y a eu un rêve de remise en place des cheveux, des idées.
Ok, et c'est toujours trois rêves comme ça qui sont faits ?
Alors, je prends le chiffre 3, j'aurais pu allonger la liste, mais je voulais dire que le rêve a toujours plusieurs significations. Donc, il y en a une par rapport à l'évolution de la personne, et il y en a une qui peut être prémonitoire. Il y a beaucoup de rêves prémonitoires, d'ailleurs, il suffit de noter ses rêves tous les jours, de les étudier le soir, en fin de journée, et avec ce qui s'est passé dans la journée, et de voir si le rêve, comme a fait dans la nuit précédente, disait des choses sur notre journée. Et on sera étonné que beaucoup de rêves sont prémonitoires. Parce que comme ça, nous avons une fonction en nous pour découvrir le futur. Ce qui nous pousse à nous poser des questions sur le temps. Est-ce que le temps existe ? Alors pour nous, il existe. Dans notre réalité de vie, il existe. Mais par rapport donc à l'éternité, le temps est une illusion d'esprit. D'où la possibilité de prévoir l'avenir.
Oui, forcément.
Bien sûr.
Cette notion de temps, ouais, c'est très, très intéressant. On fait une petite pause musicale encore, monsieur Mirande. On se retrouve dans quelques petites secondes. A tout de suite.
A tout de suite.
Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Le podcast, rendez-vous sur notre site www.enquête-spirituelle.com.
Et nous revoici d'Enquête spirituelle. Merci Laurent de me filer les clés de la boutique. Nous sommes toujours avec monsieur Mirande.
D'abord un petit coucou à faire passer, si tu me le permets.
Oui.
J'ai Latitou qui fait un coucou à Karima et Kevin, à qui elle a fait découvrir notre émission Enquête spirituelle.
On la salue.
Latitou, voilà. Il va bientôt devenir notre membre d'honneur d'Enquête spirituelle. Mais c'est incroyable. Merci notre titouille nationale. Allez, on continue avec monsieur Mirande, que nous avons téléphone et nous discutons. Voilà.
Si vous avez des questions, Amy va rappeler les coordonnées. Est-ce que vous pouvez nous poser des questions en direct?
Alors, sur le chat en direct de l'émission radio, de la radio Max FM, vous allez sur notre page Facebook ou sur notre site www.enquête-spirituelle.com. Vous avez directement le petit logo pour nous écouter. Vous cliquez dessus et vous tombez directement sur la webcam et le chat en direct. Sinon, vous pouvez également nous joindre par téléphone au 068 480 551 pour la Belgique. Depuis la France, 00 32 68 480 551.
Voilà, et posez vos questions par tous ces moyens-là, sur le chat ou sur la page Facebook, même c'est le plus rapide pour nous joindre en direct. Alors, monsieur Mirande, on parlait hors antenne pour les prochains sujets qu'on va aborder, notamment les rêves avec les significations des animaux, les symboles des rêves. C'est d'ailleurs un livre que vous avez écrit. par rapport aux animaux. Donc, qu'est-ce que ça pourrait signifier le fait qu'on arrive à déjà les voir et peut-être des fois à communiquer avec eux, parce que ça m'est déjà arrivé de parler à un chat ou à un chien qui nous répondait.
Alors les animaux, bien sûr, apparaissent dans les rêves. Là, j'ai écrit un livre donc sur ce sujet qui montre en réalité le plus grand nombre d'interprétations qui existent sur les animaux, le plus précis, le plus rigoureux. C'est les animaux symboles des rêves aux éditions d'Anicel. Alors, les animaux apparaissent bien sûr dans nos rêves et quelquefois on se voit discuter avec des animaux. Donc ça indique un développement de capacité de communication sur le plan subtil. À l'heure actuelle, beaucoup s'intéressent au chamanisme et à leur animal totem. Et souvent, l'animal qui intervient souvent dans leurs rêves correspond à leur personnification. Alors là, c'est quand même en relation avec la théorie de la métempsychose, c'est-à-dire que les animaux évoluent jusqu'à ce qu'ils arrivent à une vie d'être humain. Voilà, donc ça c'est cette théorie de la métempsychose, de la réincarnation, les animaux en évoluant parviennent à l'espèce humaine. Alors pour cette communication avec les animaux, on va pouvoir l'utiliser de plusieurs façons. Il y a bien sûr tous les fabulistes qui sont penchés sur les caractères des animaux et ont décrit les êtres humains à travers les animaux. Chaque animal correspond à une tendance de l'être humain. Alors pour découvrir la famille des animaux, il suffit d'étudier leur vie, de connaître leurs mœurs, et c'est ce qui va nous permettre de trouver le caractère d'un animal dans nos rêves.
C'est très très intéressant par rapport aux animaux, en tout cas. On s'imagine pas justement qu'il y a tellement de significations que même les animaux, je suis sûr qu'il y a même d'autres choses qui peuvent donner des significations dans les rêves. Et justement, j'avais une question. Quel est le rêve le plus commun que vous avez eu à traiter, un rêve qui signifie quelque chose, à mon avis, d'important, vu que ça doit être un rêve commun, lequel ?
Alors, le rêve qui intéresse au moins une personne et qui pourtant est un des plus intéressants, c'est le rêve de chercher les WC. Hein, on cherche les WC pour féquer ou uriner. Beaucoup de personnes font ce rêve.
Moi, je les trouve dans mes rêves.
Et les gens disent, c'est pas intéressant, je fais un rêve pas intéressant, je cherche encore les WC, etc. Ben justement, je dis, si vous faites souvent ce rêve, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore éliminé. Et le fait d'aller au WC dans les rêves, eh bien, c'est excellent. C'est un très, très beau rêve parce qu'enfin, on se débarrasse de ces emmerdements. On se débarrasse de ce qui nous fait chier. On arrive donc à se débarrasser de sa merde. Voilà, alors là j'emploie les mots clairs qu'on utilise dans le langage courant pour expliquer que, en fait, déféquer dans les rêves, s'éliminer ses ennuis, et sur le plan mystique, réduire son karma. Donc il est essentiel d'aller éliminer, c'est-à-dire de sortir les rêves. Et souvent, c'est en rencontrant un analyste, en découvrant le cabinet d'analyse, qu'on va enfin pouvoir se soulager. Voilà l'interprétation d'un rêve commun qui est pourtant très important.
Ce
rêve,
si.
Toi, tu les trouves, Amy, alors c'est ça?
Moi, je les trouve, donc j'évacue, oui.
Je n'ai jamais.
Mais que dans mes rêves, je précise. C'est vraiment que dans le rêve.
J'ai jamais fait de rêve de WC.
Et si moi, je rêve pas de rêve de WC, c'est pas grave, monsieur Imirand, rassurez-moi. Je n'ai jamais rêvé de toi.
En vous, il n'y a pas trop de problèmes, ça va.
Ouais.
Sinon, une
cause. J'ai pas de problème dans ma vie, alors. N'en déplaise à certaines et certains qui m'écoutent.
Risque de s'installer.
Mais écoutez, je suis très heureux d'apprendre que je n'ai pas de problème. Alors qui apparemment Amy, tu fais des rêves de WC.
Oui.
Bien savoir là, qui nous écoute, qui fait des rêves de WC aussi, tiens. Et je serais bien curieux de l'apprendre. Oui. Non, toi non plus, non, Laurent. Non. Eh ben tu n'as pas de problème.
Voilà.
C'est génial.
Merci pour moi.
Voilà, on n'a pas encore rencontré les problèmes à éliminer. Le travail au WC, c'est l'œuvre noire. Après, bien sûr, nous passons à l'œuvre blanche qui est le nettoyage. Les rêves de purification, et ensuite on passe à des rêves d'action, hein, comme le matin,
j'ai pas de souvenir de mes rêves.
On va à la selle, on prend sa douche, et puis après on passe à ses activités journalières.
D'accord.
Et un rêve qu'on retrouve beaucoup sur internet, parfois quand on fouille sur les rêves, ça c'est un rêve que j'ai fait un moment assez longtemps. C'est que je rêvais que je montais en haut d'un immeuble et que je tombais, et on se réveille juste avant de toucher le sol.
Matrix, hein.
Non.
Oui, où
allez-y, là, c'est la question qu'on pose aussi souvent. Le rêve où on tombe et puis on se réveille justement avant d'avoir atteint le sol, heureusement. Ouais. Alors, ce genre de rêves souvent sont interprétés comme des retours de sortie astrale. C'est-à-dire on ne se souvient pas vraiment de la sortie astrale, mais on se souvient qu'on retourne vers la réalité du quotidien.
Ah ben alors là, on a pour quelque chose alors.
Non, mais c'est le but, oui. Le but, c'est d'arriver à s'incarner, donc arriver à toucher le sol sans danger. Par exemple, quand on fait ce genre de rêve, il suffit le soir avant de s'endormir, d'imaginer qu'on saute, mais comme un parachute, et qu'on va pouvoir se poser calmement sur le sol. Ou qu'on est dans un avion et que l'avion atterrit facilement sur la piste. Voilà, tous ces rêves-là, tous ces pensées-là, si on imagine cela avant de s'endormir, on pousse son inconscient à se transformer de façon à résoudre le problème par la pensée positive.
Oui, parce que c'est vrai que ce rêve-là, c'est aussi, ça joue sur le physique, dans le sens où quand je me réveillais, eh bien, j'avais le cœur qui battait du 200 à l'heure, quoi, comme si j'étais vraiment tombé dans le vide.
Absolument, absolument, oui, bien sûr, ça l'a fait peur. C'est le retour à la réalité, puisque la vie pour nous, c'est la réalité consciente qui est en train de revenir. Et alors, si on est proche du réveil, on se rend compte qu'on va revenir au réveil et on va rencontrer les problèmes du quotidien. Alors, il y a une certaine angoisse par rapport aux difficultés qu'on rencontre dans la journée.
Et ces rêves-là, on les retrouve souvent chez les enfants également.
Oui. Alors, chez les enfants, il y a ce genre de rêve, mais les enfants vont beaucoup plus caricaturer les rêves pour se protéger de leur signification, parce qu'ils ne sont pas à un âge où on peut interpréter. Donc, ils font des rêves, justement, avec des animaux, avec des personnages fantastiques, de manière à occulter ce qui serait trop direct à recevoir comme image mentale. Si nos rêves nous racontent trop notre ombre, eh bien, c'est une image dans le miroir trop violente. Alors, notre rêve est pédagogue, c'est-à-dire on voit que notre inconscient, ou notre intelligence intérieure, ou notre divinité intérieure est extrêmement prudente et pédagogue pour nous dire des choses sur nos rêves avec douceur et patience. Ouais. Donc, au début, les rêves sont filtrés, il y a des abstractions qui permettent de ne pas rencontrer la réalité du vécu trop vite. Le rêve, c'est, si on le travaille sur les rêves, c'est un passage de l'abstrait au concret. C'est-à-dire, petit à petit, on va soulever les voiles, petit à petit, on va ôter les masques, et petit à petit, on va découvrir toute la profondeur de soi, aussi bien dans les abîmes, c'est-à-dire connaître ses imperfections, que dans les hauteurs, et connaître sa divinité.
Ok, il y a une question sur le chat par rapport à un rêve. Alors, c'est quelqu'un qui a rêvé de son papa décédé et de sa demi-sœur qui lui demande pardon. Et son papa, dans son rêve, disparaît en poussière. Elle demande que veut dire ce rêve.
Donc, la demi-sœur, elle demande pardon au père.
Voilà, et le père disparaît en poussière.
Alors, donc, le papa est décédé dans la réalité.
Le papa est décédé, oui, non, c'est
tout
ça,
à fait. Oui.
D'accord. Alors, quand quelqu'un meurt, si on étudiait tous les rêves des membres de la famille, on découvrirait obligatoirement des rêves de culpabilité. C'est-à-dire tout le monde se sent coupable quelque part parce que personne ne donne complètement son amour à un autre. Par conséquent, on se reproche toujours quelque chose par rapport aux morts. Et ça va apparaître dans les rêves. Et alors, bien sûr, quand on demande pardon dans les rêves, c'est qu'on est en train de travailler sur le fait de ne plus culpabiliser. Et si on obtient le pardon, si on arrive à voir le Père dans son rêve nous pardonner, eh bien à ce moment-là, la culpabilité s'efface. Et dans ce rêve-là, le corps physique du Père disparaissait progressivement. Il s'effaçait. C'est ça ?
Ouais, en poussière, il est reparti en poussière.
Il est reparti en poussière. Oui. Voilà.
Là, apparemment, la personne demandait pardon à sa demi-sœur, pas à son papa.
Ah, elle demandait pardon à la demi-sœur.
Oui.
D'accord. Alors là, j'expliquais par rapport à celui qui est mort. Et le fait de demander pardon à la demi-sœur, donc c'est quelque chose qui s'est produit justement par rapport à la mort du père. C'est-à-dire à partir du moment où le père meurt, on est renvoyé à des réalités plus transcendantes, on est obligé de poser ces questions sur la vie et la mort, ça touche notre esprit profond et ça nous rapproche des autres. Et à ce moment-là, la fille va demander, la femme va demander pardon à sa demi-sœur parce qu'elle est, elle est remuée et par cette mort. Et le fait que le corps parte ensuite en poussière, le corps du père disparaisse, ça veut dire que le deuil est en train de se faire, ou il s'est fait pas mal, puisqu'on arrive à accepter que le corps redevienne poussière. Voilà. Alors ce corps qui revient en poussière, c'est peut-être donc pas simplement l'acceptation de la mort, mais peut-être l'ouverture à l'idée que le père est parti vers un ailleurs.
Ok. Et alors il y avait une autre question par rapport au chat, par rapport à un enfant qui rêve tout le temps qu'il a un chevalier qui combat. Un rêve qui revient régulièrement.
Oui, là, c'est très fréquent. Alors, pour un enfant, en principe, 9 fois sur 10, ou 99 fois sur 100, le chevalier, ça va être le père. Hein? Donc, c'est toute la formation de la maturité, où on se confronte à ses parents, et surtout au père, pour gagner ses galons d'adulte. Hein? Et ça va paraître surtout à l'adolescence. Voilà. Et ce rêve va se retrouver à l'âge adulte, ou à l'âge adulte, on va se voir polémiquer avec des patrons, des gens qui sont au-dessus de nous, qui ont des positions hiérarchiques supérieures à la nôtre. Et ça représente, bien sûr, la recherche de se vaincre soi-même. Et alors, le combat, petit à petit, doit devenir une alchimie par laquelle l'opposition va être suivie par une conjonction. C'est-à-dire, on va finir par devenir l'ami de son ennemi. C'est la belle qui se met à aimer la bête, et la bête se transforme en prince charmant. Alors, quand on travaille sur ses rêves, petit à petit, toutes les oppositions se transforment en une unification. Donc, c'est Jung qui a décrit le processus en indiquant, en parlant de la coïncidence oppositorum, c'est-à-dire la coïncidence des opposés, c'est-à-dire le mariage des complémentaires. C'est-à-dire que l'autre, c'est l'autre soi-même avec lequel on doit parvenir à l'unité.
Ok, j'espère que cette auditrice aura eu sa réponse comme ça. On fait une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques petits instants. À tout de suite.
Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Découvrez tous les sujets pour ouvrir votre spiritualité. Faites-vous votre propre avis. Nous laissons la parole à nos invités.
Et on laisse la parole à notre invité de ce soir, Monsieur Bernard Mirande, qui est spécialiste des rêves, bien évidemment, parce que c'est de ça qu'il est venu nous parler ce soir. Et d'ailleurs, vous avez un site internet où on peut retrouver toutes vos informations.
Oui, sur internet, vous pouvez trouver mon site, c'est Rêve. Donc http://, rêve, sans ascenseur complexe et sans séparation, sans tirer, rêve.free.fr.
Voilà, donc tous les gens pourront trouver toutes les informations.
Voilà, il y a aussi un site où j'interprète des rêves sur le site de Jacques Suire, c'est jacques35.word, Jacques J-A-C-K, 35.word, presse.com. Alors, c'est étrange et insolite. Vous tapez étrange et insolite aussi, vous tombez sur le site et vous prenez interprétation des rêves et je donne des explications sur les rêves. J'interprète des rêves.
Ok, Emmy se charge de tout ça, de mettre sur Facebook. Et tu avais une question par rapport à un de tes rêves.
Voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai écrit une dizaine de livres sur les rêves et je suis peut-être une des rares personnes dans le monde qui écrit autant d'ouvrages sur ce sujet.
En tout cas, on voit que ça vous passionne, ça c'est sûr et certain.
Oui. C'est énorme.
C'est certain.
C'est ce que les auditeurs nous disent sur le chat, que vous êtes un vrai passionné, quelqu'un de très calé. Voilà, comme ça on vous passe le message en même temps.
C'est 30 ans d'expérience.
Ah oui, j'imagine. Ah,
c'est beaucoup.
Donc, j'avais une question à vous poser, je ne suis pas la seule à faire ce genre de rêve. Je me retrouve dans des mêmes lieux, les mêmes situations, je peux même parfois refaire les mêmes rêves. Donc oui. Dans les rêves, je me souviens, ah oui, je suis déjà venue ici, telle personne, j'ai déjà rencontré. Mais quand je me réveille, je ne connais ni le lieu, ni les personnes. Est-ce que ce sont des vies antérieures, des vies parallèles? Est-ce qu'on est vraiment évadé dans d'autres mondes invisibles?
Je m'intéresse fortement à toutes ces choses-là. C'est-à-dire, si on note ses rêves, on a des rêves sur son enfance. Si on continue plus loin à travailler sur soi, on arrive à des rêves sur la petite enfance, sur la prime enfance, sur la vie intra-utérine. Et si on arrive à nettoyer tout ça, on accède aux rêves de vie antérieure. Mais on peut accéder aux rêves de vie antérieure plus vite en utilisant des techniques de respiration et de visualisation et qui précipitent les rêves. C'est-à-dire que le travail de méditation est indispensable en parallèle au travail du rêve. Car quand on médite, on fait venir des rêves exceptionnels qui vont illuminer notre vie beaucoup plus rapidement. Alors, si on descend dans l'inconscient profond ou si on utilise une technique pour découvrir ses vies antérieures, on obtient des récits où on se voit dans une ville du passé avec des gens portant des habits d'autrefois et on va trouver des scénettes qui se représentent aux vies antérieures. Mais les scènes que l'on voit sont toujours en rapport avec ce que l'on doit travailler actuellement dans son vécu. Il y a toujours un lien. Alors, en remontant ces 10 dernières vies antérieures, on arrive à connaître, c'est une super psychanalyse, c'est-à-dire qu'on arrive à connaître tout pourquoi on a telle malchance ou telle chance dans la vie, pourquoi on a telle qualité ou tel défaut. En remontant les 10 dernières vies antérieures, on obtient à peu près tout, hein, puisque les vies encore plus anciennes se sont répétées dans les 10 dernières. Donc, en faisant ce travail-là, on a connaissance de notre identité karmique. Alors ça, c'est passionnant, c'est le premier début du travail, c'est l'initiation de la Terre pour arriver à la lucidité sur soi-même. Hein. Et ensuite, on va développer l'initiation de l'eau à travers les rêves, où on va développer la divination par le rêve, les rêves prémonitoires ou divinatoires. Ensuite, ce sera l'initiation de l'air et on va sortir de soi, on va faire des voyages astraux qui vont nous faire découvrir petit à petit notre immortalité. Et puis, en quatrième lieu, on va passer à l'initiation du feu qui nous amène à des visions de l'avenir ou de prophéties et la vision des autres mondes. Ensuite, la cinquième initiation, ça va être l'illumination et la conscience cosmique qui sont les plus hautes initiations. Voilà. Alors voilà tout le parcours du rêve en quelques mots. Donc, réussir les cinq initiations fondamentales de la Terre, de l'eau, de l'air, du feu et de l'éther. C'est tout le programme de toute une vie que l'on peut parcourir si on s'y met.
Okay. D'accord, alors, on va s'y mettre.
On va s'y mettre, ça c'est sûr.
Je le souhaite.
Alors, il y avait encore une autre question sur le chat. Une personne qui demande ce que signifie... Oups, voilà, j'ai perdu la page. De rêver souvent de la couleur dorée avec des anges.
Ah, magnifique. Bon, la couleur dorée, c'est la couleur de la communication avec le divin, du verbe divin, on l'appelle la connaissance divine. Et le fait de rencontrer les anges, eh bien, c'est rencontrer, bien sûr, des êtres qui sont sur un plan plus élevé pour nous aider. Alors, nous avons tous un ange gardien. Et cet ange gardien, si on l'appelle dans les rêves, puis s'il a fini par venir, si on lui demande son nom, si on lui demande quelle est sa mission, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous aider, et si on demande régulièrement à son ange de venir dans nos rêves, il faut le faire que 9 jours par mois, parce que après il faut laisser les autres rêves sortir, mais 9 jours par mois, il faudrait, par exemple, demander à son ange de communiquer avec nous. Et au bout d'un an, on aura travaillé donc pas mal, une centaine de fois, et on peut avoir des renseignements sur son propre ange. Voilà, il ne suffit pas de les voir une seule fois, et on peut les voir plus souvent. Mais certains travaillent avec un ange, d'autres travaillent avec un maître, d'autres travaillent avec leur fée personnelle. Il y a plusieurs possibilités. On peut travailler avec un mort bienveillant. Enfin, c'est à chacun de choisir selon ses goûts, selon ses aptitudes.
Il faut être patient.
Les maîtres de sagesse aussi, on appelle le maître de sagesse de son choix. Or, des voies spirituelles, c'est la transcendance des voies spirituelles où chacun peut choisir le maître de son choix sans penser que ses idées, son idéologie est supérieure à celle du voisin. Voilà, le rêve va nous amener à tout ça parce que le rêve est le grand révolutionnaire qui nous remet dans une dimension universelle.
Ok. Très très intéressant. Alors Tammy, t'as encore une question.
J'ai une petite question sur un symbole, enfin un symbole, je ne sais pas vraiment, mais le fait de se voir dans un miroir, et on se voit réellement tel que l'on est physiquement sur cette terre.
Oui, alors là, ce sont des rêves de connaissance de soi. On sait très bien tout le travail du miroir. Là, Lacan a apporté une dimension très importante en psychanalyse avec les différentes phases du miroir. Où, au début, donc, c'est le moi idéal, c'est la fusion donc à la mère où l'enfant se voit dans le miroir et il croit que lui et la mère ne font qu'un. Il ne se différencie pas la mère de lui-même. Puis le deuxième stade du miroir où on se différencie de la mère. Et là, c'est la phase de l'idéal du moi. C'est-à-dire, on passe du moi idéal à l'idéal du moi. À l'époque de l'idéal du moi, c'est la rencontre donc du père qui va nous couper progressivement de la mère pour rencontrer la réalité de la vie. C'est que la réalité de la vie, c'est pas la fusion, c'est la poursuite progressive de l'adulte, de son stade de plus en plus adulte, où on se sépare un peu de la mère pour rencontrer le père, puis on va se séparer des parents pour rencontrer les autres ou vivre en couple, et ensuite rencontrer l'humanité, et après rencontrer peut-être l'au-delà. Voilà, donc ça c'est la poursuite vers un âge de plus en plus adulte. Donc le but c'est d'arriver à l'image dans le miroir qui soit l'idéal du soi. Hein. Alors on peut faire en parallèle du travail de ses rêves, un travail sur le miroir, puisque le miroir concrètement, physiquement, peut nous aider à obtenir les différentes initiations spirituelles. Hein. Donc j'ai travaillé longuement avec François Brousse qui donnait des initiations dans le miroir qui permettent de développer la vision de l'aura, la communication avec les anges et les maîtres, et ce travail-là va développer les grands rêves. Et là, donc, c'est on travaille sur l'idéal du soi avec un grand S, et c'est Jung qui a introduit cette notion. Hein, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de rester au moi idéal ou à l'idéal du moi. Hein, il s'agit d'aller vers l'idéal du soi, c'est-à-dire de rencontrer toute la richesse du soi, de soi-même.
D'accord, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Alors, il y a encore il y en a plusieurs sur le chat. Une question que je sélectionne. Une fille qui rêve d'arbres souvent, qu'elle est plongée dans une forêt ou que la forêt prend possession des murs d'une pièce qu'elle connaît.
Pardon, est-ce que vous pouvez répéter le rêve?
Donc une fille qui rêve souvent d'arbres, qu'elle est plongée dans une forêt et que la forêt prend possession des murs d'une pièce qu'elle connaît. Donc c'est plus la signification, à mon avis, des arbres et de la forêt.
D'accord. Alors, la forêt représente l'inconscient profond. Hein, c'est le côté ténébreux, inconnu, inextricable, avec toute cette végétation qui envahit tout. Alors, le fait, on le voit dans les contes de fées, hein, le rôle de la forêt. Alors, dans les forêts, bien sûr, il y a des petites carrières avec des fois des petites fées, mais ça dépend de l'inconscient de chacun. Mais là, donc, c'est une forêt qui envahit la maison. Alors, ça veut dire qu'il y a là le monde végétal qui pénètre dans la maison. Donc, c'est la recherche. C'est la recherche à l'intérieur de soi d'une rêverie. Essayer de transformer son quotidien par quelque chose qui nous ouvre à l'inconnu. Donc il y a peut-être une difficulté pour cette personne de sortir d'elle-même, d'avoir des choses qui la renferme sur elle-même, dans une introversion, avec un désir de se libérer. Et comme ça ne peut pas se faire suffisamment dans la réalité, la personne donc s'invente un monde imaginaire dans lequel elle va pouvoir trouver un bonheur. Mais en inventant ce monde imaginaire à l'intérieur de soi, on peut y trouver bien sûr une porte de sortie, c'est-à-dire que la personne peut trouver à l'intérieur de cette forêt une ouverture ou une clairière ou une maisonnette de fées, comme je disais tout à l'heure, ou une grotte initiatique qui va lui permettre de passer certaines difficultés.
Ok, Voilà, j'espère qu'elle aura
alors,
sa réponse.
On peut penser, bien sûr, relier ce rêve à l'écume des jours de Boris Vian, où l'héroïne Chloé se sent sans sa chambre devenir comme un végétal qui l'étouffe. Alors, quelquefois, c'est lié à des problèmes. Pour certaines personnes, ça va être lié à des problèmes d'asthme, ça, vous voyez, ça, des problèmes de respiration. Voilà, ça, c'est en négatif. Mais en positif, c'est la recherche d'un imaginaire qui pénètre dans son intérieur, dans son chez-soi.
Ok.
Pour essayer de trouver une évasion autre. Voilà.
Très précis. On vous remercie. Voilà. On marque encore une petite pause musicale, la dernière de cette émission. On se retrouve dans quelques minutes pour la dernière partie de cette émission. A tout de suite.
Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Amy, Thomas et Laurent enquêtent tous les mercredis soirs en direct de 20h à 22h. Enquête spirituelle.
De retour pour cette dernière partie de cette émission Enquête spirituelle avec toutes vos questions sur le chat, sur Facebook ou par email. On vous remercie d'être très nombreux à nous écouter chaque semaine partout dans le monde car on est bien passé plus de 35 000 téléchargements pour le podcast. Ça doit croître bien beaucoup plus maintenant. C'est très agréable. Voilà, tous ceux qui nous écoutent en podcast, on les salue. Alors, monsieur Mirande, pour notre invité de ce soir pour la dernière partie des rêves. Et un rêve que tout le monde fait mais qu'on n'ose pas aborder, c'est le rêve érotique.
Oh, que signifie qui a déjà fait des rêves érotiques? Oh là là, monsieur Mirande, qu'en pensez-vous?
Alors, le rêve érotique est très intéressant. Il peut indiquer ce que la personne vit dans la réalité sur ce plan-là, mais le rêve érotique n'est pas toujours lié à directement au type de sexualité que vit la personne. Il a aussi son code, il est aussi symbolique. C'est-à-dire que le rêve érotique renvoie à une réalité autre. Par exemple, si dans le rêve on se voit avec un rapport sexuel avec un animal, ça peut représenter par exemple autre chose que la zoophilie, ça peut représenter l'intérêt pour tout tel aspect de la personnalité de l'animal, hein. Donc il y a tout un codage amusant quelquefois avec ces types de rêves. Alors bien sûr, des fois c'est très important pour aider les gens à régler leur type de rapport sexuel, pour les aider sur ce plan-là. Et le rêve érotique code aussi l'évolution du couple intérieur entre le masculin et le féminin en soi, donc tout le travail d'unification pour arriver à créer son enfant divin. C'est-à-dire ce que Freud n'a pas vu, il a vu donc que les rêves étaient liés à la sexualité, d'ailleurs c'est la seule grille analytique qu'il ait mise en place, il a cru que tous les rêves s'adressaient à la sexualité. Mais en réalité, les rêves de l'évolution sexuelle, c'est-à-dire tous les rêves évolués dans les rêves, ils montrent une progression sexuelle jusqu'à la création de l'enfant, non pas de l'enfant de chair, ça peut être la réalité aussi, mais d'autres, la plupart du temps, c'est l'enfant symbolique, c'est-à-dire notre réalisation personnelle. Et cet enfant symbolique devient de plus en plus l'enfant divin, qui est notre grande réalisation, notre sauveur intérieur. Voilà. Alors, la progression des rêves code toujours cette évolution-là. Et tous les rêves sexuels sont en rapport avec ce travail de réalisation personnelle. L'enfant symbolique dans les rêves représentant ce que nous réalisons pour notre évolution dans n'importe quel domaine de la vie, y compris les enfants de chair, bien sûr.
Eh bien, c'est très précis tout ça. Eh bien, nous vous remercions de votre présence ce soir. Monsieur Mirande, on arrive à la fin de cette émission. On va rappeler votre site internet pour, bien évidemment, les gens qui veulent entrer en contact avec vous et en savoir plus sur vous.
Alors, le site, c'est http://rêverêve.free.fr. Rêve sans accent circonflexe, sans tirer, sans séparation. Sinon, vous tapez simplement Bernard Mirande sur Google et là, vous avez en tout début mon site.
Voilà, comme ça le message est passé.
Et il y a le rêve, il y a aussi sur les rêves, le site où j'interprète des rêves, c'est le site de Jacques Suire. Alors c'est jacques.wordpress.com. www.etranger.com. C'est, sinon, vous tapez étranger insolite et vous aurez le site et vous allez dans Interprétation des rêves.
Merci voilà. Beaucoup.
Voilà, je vous rappelle que vous pouvez découvrir ce monde des rêves que j'ai particulièrement travaillé dans mes différents ouvrages.
Voilà, qu'on peut trouver sur votre site internet. Alors, ouais. Restez avec nous pour la fin de cette émission. La semaine prochaine, nous avons un invité qui s'appelle Serge Boutboul.
Tout à fait.
Et on va parler de plein de bonnes choses, de sorties astrales, de protection,
de
l'intuition, de la clairvoyance. Ce sera la semaine prochaine. Et dans deux semaines, nous recevrons un Canadien, mais en studio directement.
Oui, oui, il sera présent en Belgique. C'est Denis Léveillé.
Voilà.
Il viendra nous parler de sa technique de l'éveil de la mémoire corporelle.
Voilà, voilà. Et nous, on se retrouvera en conférence. Ça, ce sera pour le 15 avril sur les NDE. Ah, dans deux semaines,
Thomas. Dans deux semaines, ça roule.
Bonne fin de semaine.
Bon bisous à tout le monde.
Et
ciao.
Et merci encore à notre invité, monsieur Mirande.
Bye bye. Merci, monsieur Mirande. Au plaisir. Au revoir.
Au revoir. Au revoir à tous les auditeurs et merci.
C'est nous qui vous remercions.
Au revoir. Une bonne soirée. Au revoir.